Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne!
Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Bienvenue parmi nous, je suis Romain Petitjean et je suis accompagné, une fois n'est pas coutume, de Gabriel Fouquet et de Pierre Leprince. Pierre, Gabriel, bonsoir, merci d'être avec moi. Pour cette nouvelle émission, c'est le 9e opus de ce libre journal Vive la civilisation européenne consacré à la mer. Qui la dominera, qui la prendra, qui va l'explorer. Pour cela, j'ai deux invités de choix qui m'ont rejoint dans ce studio. Frédéric Éparvier, qui, après des études de géopolitique aux États-Unis dans les années 80, a travaillé dans les industries navales et de défense pendant 30 ans. Il enseigne la géopolitique de la mer aux auditeurs de l'Institut Iliade et vient de publier dans la collection Longue Mémoire, Sparte et l'idée spartiate, des origines au déclin. Frédéric Éparvier, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous les auditeurs.
Michel Geoffroy est avec nous, il est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Il est énarque, essayiste et contributeur régulier de Polémia. Il a publié La superclasse mondiale contre les peuples, Bienvenue dans le meilleur des mondes dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade à la Nouvelle Librairie et La nouvelle guerre des mondes où on retrouve beaucoup des problématiques qui seront abordées ce soir. Michel Geoffroy, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Et nous retrouverons en toute fin d'émission le chroniqueur Raphaël Emma pour ses chroniques identitaires et Romain Espinaud, responsable du développement de l'ASLA. Alors qui prendra la mer? Puisque la mer aujourd'hui, c'est 71% de la surface du globe. Les mers, les océans sont depuis la nuit des temps un enjeu de pouvoir politique, commercial, militaire, autant de choses que nous allons scruter dans le peu de temps que nous avons, vous le savez, vous pourrez toujours prolonger les discussions, je suis sûr que nos invités auront des vidéos ou des références à vous communiquer. Le domaine maritime s'est avéré dans l'histoire, pour celui qui le maîtrise, un phénomène multiplicateur de puissance, jusqu'à donner naissance au cours de l'histoire à de véritables thalassocraties. On connaît les États-Unis d'Amérique parfaitement. C'est l'Américain Alfred Mahan qui a théorisé ça, cette opposition finalement entre les forces de la terre et de la mer. Donc c'est un des points de départ de beaucoup de géopoliticiens et c'est le point de départ que je vous propose de prendre, chers amis Frédéric Éparvier et Michel Geoffroy, pour aborder cette question. Donc j'ai Michel Geoffroy en face de moi. Cette opposition entre terre et mer, est-ce que c'est réellement le bon prisme aujourd'hui pour étudier les forces en présence et finalement le mouvement géopolitique et politique du monde?
Alors, je pense que c'est un prisme intéressant, mais il ne faut pas trop le systématiser. Moi, je dirais, ce qui est frappant, c'est que c'est surtout une approche qui a été celle des anglo-saxons. Il y a aussi des Allemands qui ont traité la question. Mais je pense que le petit reproche que je lui ferais, c'est que c'est un petit peu systématique, parce qu'en réalité, l'opposition terre-mer repose sur l'idée que la maîtrise de la mer permet de maîtriser la terre. Mais on peut remonter plus loin. Raleigh, le pirate Raleigh, le pirate bien aimé d'Elisabeth Ier, disait « qui maîtrise la mer maîtrise le commerce, qui maîtrise le commerce maîtrise le monde ». C'est quand même une vision très particulière du pouvoir. Hein. C'est quand même une vision très, très mercantile, avec en plus une espèce de fatalisme géopolitique que l'on peut contester. Parce qu'en réalité, je trouve, moi, dans l'histoire, notamment l'histoire européenne, la plupart des grands empires ont été à la fois terrestres et maritimes. Pensons à l'Espagne, par exemple, l'empire espagnol sur lequel le soleil ne se couchait jamais, était à la fois un empire territorial en Europe, qui montait très loin en Europe, et puis en même temps un empire maritime très fort. Donc l'opposition systématique avec cette idée quand même très anglo-saxonne que ce qui compte, c'est quand même le commerce, hein, l'économie, puisqu'on a une puissance maritime, on a vocation à dominer la terre, c'est quand même...
De fait, la puissance maritime anglo-saxonne dans ce monde fluide est extrêmement importante.
Oui. Disons que elle a émergé surtout d'abord au XIXe siècle avec la Grande-Bretagne, puis après au XXe siècle avec la puissance américaine. Bon, maintenant, si on regarde certains événements très précis, par exemple la Seconde Guerre mondiale, Est-ce que c'est vraiment la thalassocratie qui a vaincu l'Allemagne? Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt l'armée rouge qui a écrasé l'Allemagne. Les anglo-saxons n'ont eu qu'un rôle assez limité. Même si vous regardez la guerre du Pacifique, la guerre du Pacifique n'est pas une opposition terre-mer. Elle est fondamentalement l'opposition de deux puissances maritimes. Donc, si vous voulez, il y a de nombreuses exceptions à ce principe.
Frédéric Éparvier, même question sur ce postulat de base d'opposition entre les forces terrestres et maritimes. Si on va de Sparte, que vous connaissez bien, jusqu'à l'époque plus contemporaine, est-ce que c'est le prisme adéquat ?
Je suis vraiment tout à fait d'accord avec Michel. Je crois qu'il faut plus regarder cette question comme une complémentarité entre la terre et la mer qu'une opposition. Sparte ne gagne pas face à Athènes s'ils ne se construisent pas une flotte avec l'argent des Perses. De même, pendant la Seconde Guerre mondiale, Michel l'a dit, c'est l'armée rouge qui gagne. Donc il y a une véritable complémentarité à observer. Un empire, pour être un empire, doit avoir une marine, avec les capacités industrielles qui la soutiennent. Et ça, ce sera peut-être un sujet d'interrogation, surtout dans la perspective des élections européennes, mais aussi une puissance territoriale. Et si on reste dans les grands géopolitologues, Mackinder, qui poursuit les études de Mahan, n'a qu'une crainte, c'est la constitution du bloc terre, du pivot, du bloc sino-russe, auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une revanche des puissances continentales sur les puissances thalassocratiques ? Peut-être.
Aujourd'hui, quelles sont les forces en puissance, en présence, pardon, quand on parle de puissance maritime, est-ce que les forces militaires américaines, chinoises, dans la mer sont réellement puissantes et effectives ?
Alors, la grande puissance, c'est la puissance américaine.
Concrètement,
C'est absolument colossal. Si vous allez à... C'est 12 fois la marine française, à peu près. Mm-hmm. 12 porte-avions de 100 000 tonnes pour la France, un porte-avions de 45 000 tonnes. Donc, c'est absolument colossal. C'est 50 sous-marins d'attaque, là où la France en a 6. Pardon.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, Frédéric Éparvier. Merci.
C'est des destroyers qui font deux fois la taille des frégates françaises. C'est absolument colossal. Le budget de la défense française, c'est 42 milliards d'euros par an. Mm-hmm. Le budget de la marine américaine, c'est 200 milliards d'euros par an.
Donc, en croissance, continue en plus.
C'est augmenté en permanence. Ils commencent à avoir des problèmes pour constituer les équipages. Ne pas survaloriser la puissance de l'armée américaine, qui reste en grande partie aussi un système d'élévation sociale pour les minorités américaines, avec des vrais problèmes. Donc la puissance américaine est colossale. Des soucis industriels, parce que, comme beaucoup de pays de l'Occident, ils ont un peu laissé partir leur industrie. Or, on n'a pas une marine puissante si on n'a pas une industrie navale civile puissante à côté. Les Américains n'existent plus dans le domaine de la construction navale civile, maritime. Et puis on assiste à la montée en puissance de la Chine. La Chine met à l'eau l'équivalent de la marine française tous les 4 ans. Il y a eu, il y a 4-5 ans, plus de bateaux chinois en Méditerranée que de bateaux de la marine française.
Si on prend la perspective européenne, alors on sait que l'Union européenne est un nain politique et largement vassalisé, mais tout de même, ça représente quand même 450-500 millions d'Européens, avec une certaine force industrielle et militaire résiduelle, mais toujours existante. Quel est le poids de l'Europe? Et finalement, dans ce prisme terre-mer aujourd'hui, comment elle se tourne, cette Europe? Comment vous la voyez se positionner au prisme de cette opposition terre-mer qui nous occupe?
Moi, j'ai une vision assez pessimiste du positionnement actuel de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de défense autonome et elle est vassalisée par l'OTAN. Elle est donc soumise à la thalassocratie nord-américaine. Donc elle est quand même dans une posture assez particulière. Je crois qu'aussi, il ne faut pas oublier que les rapports de force, comme on vient de le dire, évoluent rapidement. Que la technologie évolue rapidement. Les porte-avions, c'est très bien. Mais c'est aussi fragile. Aujourd'hui, il existe des missiles hypersoniques qui sont capables, à l'évidence, de détruire des porte-avions. Alors, la destruction des porte-avions serait un acte de guerre considérable. Bon, mais en tout cas, technologiquement, aujourd'hui, je pense que la suprématie occidentale, je prendrai ce mot, c'est-à-dire en fait de l'espace qui est dominé par les États-Unis, il me semble que la suprématie occidentale est en train d'être progressivement remise en cause. On n'a pas parlé, mais la mer, ça va aussi avec l'air. Hein, la Seconde Guerre mondiale, la bataille navale s'est gagnée dans les airs. Or, aujourd'hui, l'Occident maîtrise manifestement un peu moins sa suprématie aérienne. Hein. On voit apparaître des pays. Je rappelle qu'en 2019, l'Iran a été capable d'abattre un drone américain à très haute altitude avec ses missiles. Bon, c'était un petit signe. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Hein. Bon. Bref, donc il me semble qu'un des éléments qu'il faut prendre en considération, non seulement les puissances hein, qui effectivement émergent, mais aussi les techniques. Hein, je veux dire,
avec des nouvelles technologies
l'aviation,
qui sont en capacité de bloquer finalement la circulation des bateaux. Par exemple, on pense au détroit.
Si vous regardez ce qui s'est passé au XXe siècle, l'aviation, rares ont été les pays qui ont compris que l'aviation pouvait avoir un effet sur la marine. Il y a très peu de pays. Il y avait les États-Unis, le Japon et puis la Grande-Bretagne. Les autres pays n'avaient pratiquement pas compris ça. Bon, la flotte japonaise a été coulée par des avions, hein, fondamentalement. Bon, donc, si vous voulez, la technique, indépendamment des puissances, peut bouleverser les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, les missiles hypersoniques, les drones, regardez ce qui se passe en mer Noire, des appareils nouveaux sont capables de changer un peu les rapports de force. Hein. Et je pense que c'est aussi un élément qui ne joue pas aujourd'hui en faveur de la thalassocratie occidentale, et qui a pris un peu de retard. Hein. Je pense qu'elle a pris notamment, on dit qu'elle a pris 10 ans de retard sur les missiles.
Hein. Donc, vous êtes d'accord, Frédéric Épervier, justement sur ce développement technologique de l'armement en mer et haute mer que, est-ce qu'il y a des évolutions notables qu'on ne connaît pas et dont vous voulez nous faire part
Je ne voudrais pas
dévoiler les secrets.
Non, je ne peux pas. Je ne voudrais pas rejouer le vieux con de la nouvelle école. Cette école de Français qui croyait que l'invention de la torpille allait supprimer les bâtiments de ligne dans les années 1910. Une rupture technologique, hein, on ne la mesure vraiment qu'une fois qu'elle est sur le terrain. Est-ce que les drones vont véritablement être la révolution technologique faisant changer radicalement le format des flottes, hein, qui aujourd'hui sont porte-avions sous-marins? C'est pas évident du tout. Je crois qu'il faut pas survaloriser ce qui se passe en mer Noire. Hein. C'est un cas très particulier d'une mer fermée où la marine russe, qui n'est pas une grande marine, hein, ils ont jamais été des très grands marins. Ils ont eu des grands marins explorateurs, mais c'est pas une grande marine. Et il se trouve quand même face à des Ukrainiens, des commandos ukrainiens qui font preuve de beaucoup de courage, soutenus par les services anglais. Qui ont toujours été redoutables dans l'opération commando. On reprend les opérations commando des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction de la Grande Cale de Saint-Nazaire et ainsi de suite. Ils sont dans leur domaine. Je pense d'abord que la reconstruction ou la perception de l'importance de la maritimité en Europe, elle va être mentale et morale. Je lisais un des documents de l'Union européenne sur la guerre maritime en mer Noire et ce qui traumatisait, alors de manière un peu anecdotique, mais ce qui traumatisait les fonctionnaires de la Commission, c'est l'augmentation du nombre de morts de cétacés depuis le début de la guerre. Alors, tant qu'on en sera à ce genre de bêtises, il est clair qu'on n'en sera pas là. Il faut prendre en compte la nécessité, en complémentarité de notre puissance terrestre, d'une puissance maritime, et qui passera par une politique industrielle que l'Europe n'a pas. Il n'y a pas de politique industrielle maritime, aussi bien civile que militaire, en Europe.
Chers amis de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons après une première pause musicale proposée par Pierre Leprince.
Donc pour ce premier interlude, je vous propose de prendre la mer par le dessous, avec, une fois n'est pas coutume, une musique de film. Il est courant de moquer le manque d'ambition du cinéma français, mais si vous ne l'avez pas vu, je recommande chaudement Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry. Film qui se passe donc, vous l'aurez compris, dans un sous-marin nucléaire français dont je ne révélerai rien de plus. Et je recommande donc aussi sa bande originale, dont nous allons tout de suite écouter un extrait composé par Mark Streitenfeld, pardon, ancien assistant du célèbre Hans Zimmer et à présent compositeur émérite, ayant notamment travaillé sur des films récents de Ridley Scott. Bonne écoute.
Merci, nous sommes de nouveau dans le studio de Radio Courtoisie. Merci à mes invités Frédéric Éparvier et Michel Geoffroy. Le temps est court, mais l'émission est dense. Nous avons pu déjà un petit peu débroussailler les enjeux géopolitiques et politiques de cette opposition terre-mer et puis finalement de la puissance maritime et de son importance aujourd'hui. Vous l'avez rappelé au début, la mer est finalement un peu le lieu de la mondialisation. Les 90% des flux commerciaux se font par la mer, 98% du trafic internet passe par les câbles sous-marins, c'est le lieu où s'opère la pêche massive, l'exploitation des fonds marins pour les hydrocarbures ou l'extraction de minerais. Michel Geoffroy, la mer, donc ce lieu de la mondialisation, cette espèce d'espace liquide dans lequel cette thalassocratie a imposé toutes les ramifications de son commerce et de son doux commerce mondial, est-ce que là aussi, on ne voit pas un peu de fragilité ? Vous évoquiez tout à l'heure des détroits qui pouvaient commencer à être bloqués, de nouvelles voies d'acheminement des produits et des industries.
Bah oui, les outils sont en train de montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans les axes de navigation et que quelques missiles bien placés peuvent très bien changer certains flux et certaines voies maritimes. Donc ça montre la fragilité. C'est pas nouveau. Il s'est déjà passé dans l'Antiquité. Hein, il y a déjà eu des époques où la mondialisation dans la Méditerranée a été interrompue parce qu'il y a eu des invasions qui ont brusquement couper ça. Donc, je veux dire, c'est quand même un élément. La mer est quand même un élément fragile. Hein, je veux dire, bon. Alors, moi, ce qui me paraît frappant, on évoquait tout à l'heure la guerre. Je pense qu'il est très symbolique. Le sabotage de Nord Stream est très symbolique. Hein, bon, on peut penser aujourd'hui que le sabotage de Nord Stream n'est pas le fait des Russes, hein, mais quelle évidence...
Ou été évoqué des Norvégiens, des Ukrainiens, des Américains,
si
des
on
Anglais...
Croit à ces mots Hersch, effectivement, c'est une opération atlantique, disons, ou pour ne pas dire atlantiste. Bon, donc, c'est quand même très symbolique, parce que pourquoi aujourd'hui les pipelines, ça passe pas par la mer, pas forcément. Enfin, en tout cas, au cas d'espèce... C'est des pipelines continentaux. Il y a aujourd'hui des projets non négligeables de transport territorial par la terre, qui échappent donc, par définition, à la suprématie maritime. De même, on pourrait évoquer les fameuses routes de la soie, qui font peur à tout le monde. Ce qui est très symbolique, c'est que les routes de la soie sont très largement des routes territoriales. Hein. D'ailleurs, encore une fois, les...
Qu'on parcourt à dos de dromadaire.
Les puissances émergentes, oui, enfin, pas forcément, mais les puissances émergentes, aujourd'hui, c'est des puissances territoriales, beaucoup plus que des puissances maritimes. Donc, je pense qu'il y a aussi des évolutions en cours. Alors, si on vient à l'opposition terre-mer, ce qui était intéressant, et je pense en particulier, surtout à ce que Carl Schmitt a pu écrire à ce sujet... en montrant que la mer, c'est normalement la liberté, mais c'est en fait une image du système capitaliste, c'est une image du monde des marchands qui n'a pas de limite territoriale, hein, comme disait Montesquieu, hein, le commerce est la profession des égaux. Donc il y a toute une comparaison qui est assez intéressante entre la mer libre, vous parliez tout à l'heure de la liquide, c'est la société liquide qui est la caractéristique du monde occidental où on liquide tout, toutes les identités. Donc effectivement, la mer a aussi cet aspect-là, le grand commerce. Vous mangez des fraises qui viennent du fin fond de la terre et qui ont été transportées par avion ou par bateau, donc qui sont complètement déterritorialisées. Et je pense que là aussi, aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience du fait que Cette économie déterritorialisée, largement maritime, n'est pas forcément la meilleure solution aujourd'hui, à un moment même où on nous explique qu'effectivement les dauphins ou les baleines, c'est très grave.
Alors, vous voulez dire qu'il y a même peut-être une prise de conscience
dans certains pays,
voilà, qui pourrait mettre fin à cette économie débridée sans limite.
Encore une fois, je pense qu'il y a bien une certaine opposition entre le monde des nations émergentes qui est plutôt territorial et qui se sert de systèmes territoriaux. Je rappelle que la Chine vient de sortir son TGV Hyperloop a été flashé à 630 km/h.
Il faut verbaliser, là.
Ah oui, il faut verbaliser, mais à ce stade-là, ça veut dire qu'on est déjà dans une sorte d'avion territorial. Bon, donc, si vous voulez, je pense qu'il y a bien une certaine opposition entre un monde occidental qui se cramponne encore à sa puissance passée et qui, effectivement, repose très largement sur les grands échanges, notamment des grands échanges maritimes, les containers gigantesques, hein, mais qui aujourd'hui est en compétition avec une autre approche. Et si je regarde les résultats économiques, manifestement, l'autre approche a l'air un peu meilleure, si je regarde au plan de la croissance, que l'approche occidentale.
Et vous évoquiez la Chine, je crois qu'il y a eu cet épisode d'un empereur qui avait sabordé la flotte pour se tourner vers l'intérieur de ses terres.
C'est un exemple intéressant parce que ça, c'est aussi, ça prouve aussi une des caractéristiques de notre civilisation, c'est d'avoir découvert le monde hein, et d'avoir permis au monde, en quelque sorte, d'émerger. Alors, il faut rappeler, quand Christophe Colomb s'en va découvrir l'Amérique sur ses trois coquilles de noix, la Nina, la Pinta et la Santa Maria, l'amiral Zheng He, chinois, lui, il avait déjà fait une mission océanographique dans le Pacifique. Il avait 100 bateaux. Le navire amiral était un bateau gigantesque avec des cloisons étanches, mais toute une série de progrès qu'on ignorait complètement en Europe. Mais finalement, les Chinois ont dit « ouais ». Ouais, c'est pas mal le monde, mais c'est mieux chez nous. Et clac, ils sont refermés. Donc on voit bien l'opposition. Alors d'abord, on voit que la Chine était très puissante technologiquement. Donc d'une certaine manière, ceux qui aujourd'hui ont peur du retour de la Chine oublient que c'est le retour d'une certaine normalité qui existait jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis deuxièmement, on voit bien nos approches civilisationnelles complètement différentes.
Frédéric Éparvier, ça vous inspire des réflexions ?
Il faudrait 4 heures d'émission. Je crois que la Chine construit ses routes de la soie pour éviter l'encerclement américain. Hein. Quand on voit la disproportion des forces, elle est colossale. Et les Chinois ont bien compris qu'il leur fallait un accès non maritime vers toute l'Asie centrale, la Russie et l'Europe. C'est ce qu'ils sont en train de construire. Alors maintenant, il faudra des centaines de trains pour faire l'équivalent d'un porte-conteneur, mais le contexte existe. Et deuxièmement, je crois qu'il est très important, et c'est là que je diffère un peu avec Schmitt, de mener la réflexion toujours sur trois axes. Oui, il y a la flotte militaire. Deuxièmement, il y a l'aspect économique de la mer. Puis troisièmement, il y a l'aspect moral et culturel, politique en quelque sorte, où il y a un vrai combat à mener et qui va se retrouver dans les années qui arrivent sur le statut de la mer. C'est un vieux débat, 18e siècle, 19e siècle, le Hollandais Grotius défend des mers libres face à l'Anglais Selden qui défend des mers fermées. C'est les théories de Grotius qui l'ont emporté, c'est-à-dire qu'on a grosso modo le contrôle sur la portée de son canon, 12 000 nautiques, et puis après, on peut monter jusqu'à 250 pour pouvoir exploiter les fonds. Mais enfin, fondamentalement, la mer appartient à celui qui peut l'exploiter. Et donc, ce sont les grandes puissances, les États-Unis et peut-être la Chine demain, qui vont pouvoir exploiter cet immense domaine maritime. Et là, il va falloir que l'Europe se positionne, savoir si elle est partisane de mers exploitables pour ceux qui en ont la capacité, ou de mers patrimoine de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, se posera la question de savoir comment on le gère, ce patrimoine. Et ça, c'est un débat qui va
être... Donc on est dans la question du statut, toujours.
Alors, on y est. Alors, il y a eu la convention de Montego Bay qui a traité la question du statut dans des distances par rapport aux côtes. Mais après, il y a tout cet immense espace qui est vide d'hommes, mais sur lequel il va falloir se poser la question.
Parce que ce statut, Guillaume Travers l'a montré à deux reprises dans Éléments. Donc, il a beaucoup travaillé sur le trafic, j'ai envie de dire, de containers, qui était vraiment l'essence même de ce commerce maritime, mais aussi sur les possibilités du droit extraterritorial, extranational et en dehors de tous les droits internationaux, de sociétés offshore qui s'affranchissent de toute responsabilité. Et c'est un phénomène qui n'est pas du tout marginal, mais qui est aujourd'hui conséquent. Concrètement, on a donc des sociétés privées qui organisent leur commerce sans la responsabilité que, au fil du temps, les nations ont mis en place.
Ah oui, enfin, c'est aussi parce que les États ne font plus leur travail et qu'ils ont été déconstruits. Je veux dire,
il n'y a plus de politique, donc c'est le commerce qui s'impose à la place.
C'est comme l'oligarchie, si vous voulez. Il y a des pays où l'oligarchie, quand ça va pas, elle va en prison. Et puis il y a d'autres pays où l'oligarchie, elle a la Légion d'honneur. Donc si vous voulez, quand on laisse faire, évidemment, ça se passe mal. Donc je pense qu'il y a... Guillaume Travers a évidemment tout à fait raison de souligner le problème.
Moi j'insiste sur la prise de conscience, hein, parce que c'est un effort de long terme. Si on regarde la puissance maritime française, son grand défaut, c'est d'avoir été fragmenté. On a eu des très très grands ministres de la marine, des très très grands premiers ministres, Colbert par exemple, Richelieu sont totalement tournés vers la mer, ils construisent des marines extraordinaires et malheureusement ils sont suivis par des personnes qui ne font pas le même effort. Et donc un investissement sur une marine militaire, navale, militaire ou commerciale maritime est un exercice de très longue durée. Et malheureusement, en France, on manque un peu de cette culture. Je rappelle que c'est quand Éric Tabarly gagne la transatlantique en 64 que les ventes de Vauriens explosent et que la maison Artaud se crée. La maison Artaud qui était spécialisée en livres maritimes. Et aujourd'hui, si vous regardez toute la production littéraire française, elle parle très peu de la mer. Et à part Fabien Clos qui a inventé Gilles Belmont, un personnage, un officier de la marine de Napoléon absolument extraordinaire, on en est au 7e volume, vous n'avez pas grand-chose.
On a quand même De Villiers qui est connu pour le Puy du Fou, mais qui a créé le Vendée Globe. c'est quand même une course mondiale. Là, en termes de connaissances et de culture de la mer pour les Français, ça a été extraordinaire, mais dans un environnement plutôt morose. Vous dites que là, ce que vous appelez la maritimité, c'est-à-dire la connaissance, la culture de la mer, est extrêmement faible en France, en tout cas s'affaiblit. Ça passe par quoi pour que les Français se réapproprient parce qu'aujourd'hui, on va à la mer, à la plage, faire des châteaux de sable et ça s'arrête là, finalement.
On ne fait plus de dériveurs. Quand j'étais petit, on avait tous un vaurien. Alors, maman brossait et repeignait le vaurien avant de partir en vacances. Et après, on passait tous en été à faire du vaurien. Ça passe déjà par ça.
Bon, alors là, vaurien ou l'optimiste ?
Un optimiste, ça, c'est pour
les bateaux carrés.
L'optimiste, c'est vraiment pour les tout petits. Le vaurien, c'est un peu plus grand. Et puis, des catamarans ou des dériveurs.
Oui, mais, Gabriel, vous êtes navigatrice. Vous vouliez dire quelque chose ?
Du catamaran jeune. Voilà. Excellent exercice.
Je pense qu'il faut qu'il y ait, et ça ne se fait pas en 5 minutes, chez nos politiques, une véritable culture internationale et maritime, et elle manque fondamentalement.
Vous pensez que Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, n'a pas de culture de la voile et de la mer ? Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser
dire ça. Je n'ai rien dit encore.
Mais vous le pensez fort.
Je pense que M. Macron n'a pas de culture internationale. Il parle bien anglais, mais il n'a pas de culture internationale. Et ça se sent.
Quand on commence à dire qu'on a... c'est pas la peine de parler avec les autres, c'est quand même une vision de la diplomatie assez particulière. Je veux dire,
Très inquiétante.
Moi, il me semble que les petits bateaux pour les petits-enfants, la plage, c'est bien. Quand même, ce qui est important, c'est une action publique dans la durée, parce qu'il y a effectivement besoin d'investissements considérables. Je crois que c'est quand même la grande faiblesse des pays occidentaux. Il n'y a aucune continuité dans l'action. Donc c'est la grande différence avec les nations émergentes. Alors eux, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont des gouvernants qui dirigent pendant très longtemps, mais c'est quand même un élément de politique. Moi, je me souviens de ce que disait l'amiral Gorchkov à l'époque de l'Union soviétique. Quand il avait vu des journalistes occidentaux, alors les occidentaux lui disaient mais comment vous faites là pour faire des arbitrages budgétaires entre vos navires, etc. Et alors, il n'avait pas compris la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais moi, je dis, il nous faut des porte-aéronefs, des sous-marins, etc. Voilà. C'est-à-dire que... Alors, même si l'URSS, ce n'était pas une grande marine, il n'empêche, on voyait bien les deux manières de voir les choses. Dans notre pays, en France, le budget de la défense est une variable d'ajustement permanente, donc à la baisse, évidemment. Donc, si vous voulez, dans cette logique-là, on ne peut pas s'imaginer avoir une stratégie à long terme. Donc c'est aussi une responsabilité du politique.
Oui, et sur le long terme. Un véritable ministère de la planification, des investissements long terme. La construction maritime, par exemple, en Europe, on ne fabrique plus que des paquebots de luxe pour les croisiéristes.
C'est en France ? C'est à Saint-Nazaire ?
En France, c'est à Saint-Nazaire, ce sont les chantiers de l'Atlantique. En Allemagne, c'est le chantier de la famille Mayer. À Papenburg. En Italie, c'est Fincantieri-Vard. Et puis voilà, ça y est, vous avez fait le tour.
C'est pour balader les électeurs de Macron.
Pour balader toutes les personnes qui veulent se payer des croisières. Et il y en a des très, très bien, y compris des croisières culturelles de musique classique. Mais il faut bien se rendre compte que si les chantiers de l'Atlantique ferment, il n'y aura plus de porte-avions en Europe. Parce qu'on ne peut pas le fabriquer ailleurs. Donc c'est une politique long terme, je plaisantais un peu sur le vaurien et l'optimiste, qui est une politique qu'on doit mener dans le long terme, et où l'Europe a un rôle prépondérant à jouer. Or l'Europe a pendant trop longtemps essayé de fuir sa politique industrielle et se contentait de vouloir acheter son acier en Ukraine. Or ça ne suffit pas. Donc une véritable vision est nécessaire.
Moi, du coup, j'ai une question pour vous, messieurs. Bonsoir. Vous parlez d'un devoir public de réapprendre la maritimité. Et qu'est-ce que vous pensez de la réouverture du musée de la marine Trocadéro ? Pour avoir vu l'exposition d'ouverture, il y a quand même un travail extraordinaire qui a été fait pour rendre à nouveau l'histoire de la marine française et européenne accessible et compréhensible jusque dans le 21e siècle.
Il est très bien. Il y a beaucoup de belles choses. Déjà, moi, je l'aurais mis dans le musée des colonies, parce que ça allait parfaitement ensemble et le site à la Porte Dorée est absolument superbe. Et je regrette aussi un peu qu'on n'ait pas un très grand musée français. Vous avez des très très belles collections dans le musée de Brest, le musée de la Marine à Brest. Vous avez un assez beau musée de la Marine à Toulon. Alors je ne suis pas toujours pour faire des grands bidules, mais je crois qu'un très grand musée de la Marine et de l'aventure maritime, Jacques Cartier, Saint-Malo, mais en incluant aussi les grands voyageurs, honnêtement, l'épopée de Magellan est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour ceux qui ont vu l'émission sur Arte, et notamment le troisième épisode où il passe le détroit de Magellan, il faut voir que les gens naviguaient sur des bateaux de 25 mètres, sans carte et sans savoir où ils allaient. Seul leur sens marin leur laissait penser qu'il y avait sans doute un océan de l'autre côté.
Il fallait écouter la petite musique qui les guidait dans la nuit. Pierre le Prince.
Tout à fait. Ben voilà, très bonne transition, Romain. Donc pour ce deuxième interlude et pour coller au thème, un chant de marin traditionnel, mais arrangé avec grand soin. Je ne serai pas très objectif puisque le groupe que je vous propose de découvrir est composé d'amis de longue date, mais la Guitoune, c'est son nom, a eu pour talent de se réapproprier de grands classiques de chants de marin avec des chœurs féminins et une production de grande qualité. Nous écoutons donc l'harmonica tirée de leur deuxième album, Marinade Bretonne. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.
Tout ce que j'avais de plus beau, souvenir de tout pays, bouteille de rhum et de whisky, une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'y ai mis l'harmonica que j'avais acheté à Malaga. Avec mon harmonica, souffle la poigne à l'harmonica, l'harmonica. Oh, la gique et la poigne, écoutez ça les gars, pour faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson par chaque trou. Il sait des tas de refrains, dont les plus beaux sont les marins. À bord, pendant les gars, on va y faire les gars. Il en parle de la terre, de la mer et de leurs amours.
Avec mon harmonica, souffle la poêle, l'harmonica, l'harmonica. Pour la chique et la poêle, et ça les gars, pour faire l'harmonica.
Du temps où j'étais pas manchot, il faisait la cour dans les pays chauds. Ah, une sombre beauté qui ne voulait pas se s'étendre. Sa peau et son corps étaient noirs, elle voulait rien savoir. Je lui ai dit que j'étais matelot, elle a crié, je suis perdu.
Avec mon harmonica, sous la poêle, à l'harmonica, l'harmonica. Pour la chique et la polka, ça les gars, pour l'harmonica.
Au comptoir de Calao, je suis allé faire un gros porto. J'y ai vu l'harmonica, qui m'a bien vite ouvert ses bras. De retour à mon bâtiment, j'ai pu mon instrument. Elle me l'avait goupillé, de la vérole elle m'a payé.
Avec mon harmonica, souffle la poêle, à l'harmonica, l'harmonica. Pour la chique et la polka, écoutez ça les gars, pour l'harmonica.
Celui qui a fait 16 chansons, c'est Henri Jacques Matelot de Pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer le coup. Avec ses gueules de trafic, on faut lui rincer les dents. Offre-lui un coup d'acteur et je vous jure bien qu'il le croira.
Ah, du fond d'harmonica, souffle la poêle, l'harmonica, l'harmonica. Pour la gique et la polka, tout ça les gars, faut faire l'harmonica.
Yeah-ha!
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du Libre Journal Vive la civilisation européenne.
Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet qui est dans le studio et qui va interpréter les poèmes de Frédéric de Saint-Chiot dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Aujourd'hui, alors que nous parlons de géopolitique de la mer, elle nous propose une géopoésie de la mer. La trentaine entamée questionne ses hormones. Sera-t-elle une mère ? Sera-t-elle une nonne ? Ressemble-t-elle au blé que l'on sème et moissonne ou plutôt à la rose dont la tige frissonne ? Verra-t-elle son ventre devenir un vallon, tout gonflé par le souffle d'un divin aquilon ? Laissera-t-elle sur son lit d'accouchement une empreinte des tresses qu'on lui nouait enfant ? Son parfum suave et doux, tendre, odoriférant et le goût fruité de ses rêves innocents ? Qui franchira la porte de ses maigres entrailles ? Un titan ? Un colosse ? Un frêle brin de paille ? Quel nom donnera-t-on à cet être chéri qui viendra secouer les heures de la nuit ? Et décèlera-t-elle dans l'œil de son mari la fierté d'élever un relais pour la vie ? Son sang nourrira-t-elle de son lait qui s'écoule, de ses mamelles en feu qu'elle cache à la foule ? Aura-t-elle la chance d'être appelée maman par une bouche en cœur, par des lèvres d'enfant, et de glisser un sou sous une taie d'argent pour la perte de lait d'une première dent ?
Les dieux seront témoins de la fertilité d'une riche semence en un nid déposé. Je me couchais hier avec l'esprit limpide, la nuit s'en est mêlée, mon ventre n'est plus vide.
Les rêves les plus purs de cette tourterelle s'animent, se présentent à la vie, au réel. Ainsi, elle éteindra les pleurs du chérubin grâce aux gouttes de lait perlant de ses seins pleins. Échangera la couche, les langes et les draps, préservant leur douceur, leur blancheur, leur éclat. En frottant dans un rythme effréné ses tissus, effleurant de sa chair les princiers attributs. Elle naviguera sur les faux des comptines, immortalisera la saveur des tartines. Grillée, beurrée, trempée dans un grand bol de lait, dessinant ses premières moustaches à grands traits, elle essuiera en vain les empreintes de doigts décorant les vitraux d'une chaumière en bois, les verra peu à peu courir sur les fenêtres, et de plus en plus haut, pour soudain disparaître.
Alors il sera temps d'imiter les marées, tirant leur révérence après s'être échoué. Bon vent, lui lancerai-je en riant devant lui. Quel malheur, penserai-je, de tristesse remplie. Il naviguera sans son capitaine à bord, s'orientant grâce aux astres sa vraie carte au trésor. Les vaisseaux maternels seront brûlés sans peine, faisant rougir mes yeux, mes joues marmoréennes. Son odyssée débute, Homère prend le large, emportant ses bréviaires, encriers, plumes et targes. Se souviendra-t-il, après son long voyage, de l'amour d'une mère transmis en héritage ? Mais que vois-je déjà pointer à l'horizon ? La proue de son navire, les yeux de mon garçon ? Son seul sourire efface en moins d'une seconde les cris, les pleurs, les doutes, les humeurs qui abondent, la nostalgie qui pointe, la colère qui gronde, de mère démunie dont s'est réduit le monde.
C'était l'intermède poétique proposé par Frédéric de Saint-Quio, Géopoésie de la mer, et nous la remercions, nous la saluons.
Ainsi qu'Omer, son petit garçon.
Je crois que nous avons des questions d'auditeurs, on ne peut pas toutes les lire. Gabriel, vous pouvez lire la dernière, celle-ci, là, qui est arrivée ?
Bien sûr. Nous remercions d'ailleurs tous nos auditeurs quand ils prennent le temps de partager ces moments-là avec nous. Et donc la question de monsieur est la suivante. Vous venez d'évoquer la navigation chinoise qui serait aboutie jusqu'aux côtés du Mozambique. Ce furent les Portugais qui finalement contournèrent les côtes africaines et arrivèrent en Inde, en Chine et au Japon. Cela fait 500 ans que le monde est devenu plus global avec le tour de la Terre par le Portugais. Grâce au Portugais, plus précisément, Fernão Magalhães.
Ah, c'est Magellan, c'est l'incipit de Stefan Zweig. Au commencement étaient les épices, qui est une phrase qui résume tout le livre et toute l'aventure de Magellan. C'est d'abord une aventure commerciale. Le profit qu'on fait sur les épices, parce que soyons clairs, la nourriture au Moyen-Âge est tellement fadasse que seul le poivre et les épices la rendent mangeable. Et c'est 317 fois... La mise initiale, le commerce à l'époque des grandes découvertes. Donc c'est d'abord une aventure commerciale et qui rejoint aussi et qui va de pair avec un développement technique et technologique. L'invention du safran à l'arrière du bateau et un certain nombre de découvertes font que l'Occident, et là c'est l'Europe, hein, l'Europe pétrine, devient la puissance dominante dans le monde. Et pour longtemps. Et après, elle déploiera ses outils culturels, ses langues, et ainsi de suite. Mais c'est d'abord une aventure commerciale.
Vous pensez ? Je me suis beaucoup posé la question, pas pour Magellan, mais par exemple pour Christophe Colomb. Est-ce qu'il va chercher de l'or ? Est-ce qu'il va évangéliser ? Ou peut-être la troisième voie, finalement, tout simplement aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et éprouver la capacité à aller voir de l'autre côté, alors que justement les Chinois ne vont pas y aller. Est-ce que c'est pas ça le réel moteur avant le commerce et avant la foi ?
Il cherchait la route des Indes tout de même.
Oui, chercher, explorer, trouver. J'évoque ça comme un vrai moteur.
Je pense que c'est tout à la fois l'évangélisation, parce qu'à l'époque il est hors de question de ne pas être religieux et chrétien. Donc la découverte, parce que c'est effectivement l'esprit, l'esprit européen. Le commerce, parce qu'il faut quand même payer les bateaux. Je veux dire, c'est les investissements que ça représente, même à l'époque. Donc c'est un peu tout ça. Je crois que... Puis les marins, eux, ils cherchent le gain aussi.
Alors justement,
pas uniquement l'aventure. Peut-être que Christophe Colomb cherche l'aventure, lui, peut-être. Mais la plupart des gens qui s'embarquent pour vivre.
Pour faire le lien avec la période contemporaine, et notamment sur notre capacité à explorer, on connaît le succès aujourd'hui qu'a le fondateur de Tesla, Elon Musk, avec ses fusées. Mais je crois qu'il reste d'énormes étendues inexplorées. Alors pas forcément exploitées, mais tout simplement inconnues de notre histoire, de notre horizon. Vous en savez un peu plus sur ce qui reste à explorer
Les fonds marins.
Oui.
Ou à peu près la totalité des
c'est
fonds
ça,
marins.
C'est ça, on en connaît.
On a un problème physique qui est la profondeur.
La pression.
Un bar tous les 10 mètres. Mais oui, on a les fonds marins, je dirais qu'on connaît les fonds marins parce qu'il y a eu des sondages, mais toute l'exploration des fonds est là, est une des prochaines aventures du siècle, certainement.
Et là, il y a des nations en pointe déjà, on les connaît.
Les grandes nations, Amérique, Chine, bien évidemment. L'Angleterre a gardé certains
atouts
technologiques là-dessus. Et ça rejoindra ce que je disais tout à l'heure, le statut juridique des fonds marins, bien évidemment, parce que l'exploration entraînera l'exploitation.
Il est en question déjà, j'imagine, ce statut.
Il est en rediscussion dans une phase 2 de Montego Bay. Ça va être long.
Vous avez suivi ces questions de statut des fonds sous-marins, Michel Auffroy ?
Non, moi j'en suis resté à Jules Verne, si vous voulez, donc, qui avait une manière d'explorer les fonds marins. Il n'y a pas que les fonds marins, n'oublions pas l'espace. L'exploration de l'espace, c'est une invention européenne. Hein. N'oublions pas aussi, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les terres aujourd'hui recouvertes de glace. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans certains continents. Donc nous avons devant nous, le monde n'est pas fini, il reste très ouvert. Hein. Donc il y a de nombreuses opportunités. L'exploitation des fonds marins, ça a été un sujet de science-fiction, j'en parle parce que j'ai fait un petit essai sur la question. Mais là aussi, on a été très optimiste parce qu'on a pensé qu'on pourrait le faire facilement. Et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Si vous allez à Anaheim, qui était un des premiers Disneyland aux États-Unis, on vous présentait le monde du futur et on vous présentait des villes sous-marines comme si c'est de rien n'était. On voit bien qu'on n'en est pas là du tout. Donc on a devant nous un univers très vaste.
Et un monde en transformation, je rebondis sur ce que disait Michel, qui parlait de l'exploration des glaces. La fonte des glaces entraîne aussi une transformation du monde maritime. La route du Nord va réduire les routes commerciales de 40% en temps et donc en consommation d'énergie, et remettre la Russie au centre du commerce maritime.
Elle est ouverte, cette route ?
Elle est quasiment ouverte maintenant à peu près tout le temps, avec des modifications de bateaux, c'est-à-dire qu'il faut décharger à l'entrée de la Sibérie et refaire un transfert en arrivant en Norvège. Mais elle est quasiment ouverte, oui. Et ça, c'est colossal. Ça veut dire que les pays, Singapour, qui tirent leur richesse de leur position sur le détroit de Malacca, le canal de Suez, vont se retrouver dans une situation économique différente. Je le dis très poliment. Mais le contournement du bloc eurasiatique par le nord va être une des grandes modifications géopolitiques du XXIe siècle.
Vous avez balayé un peu rapidement le sujet des cétacés, je trouve.
Cétacés, dit la baleine.
Voilà, tout de même, enfin, je veux dire, ça me paraît un aspect tout à fait essentiel des choses. Donc, ce commerce et cette exploitation finalement de la mer par les nations dégrade très très largement notre environnement naturel. Donc, au plus proche des côtes pour les nations et en haute mer aussi. Donc on a tous vu ces grands nids de plastique qui s'agglomèrent au milieu des océans.
Les géants proches des côtes.
Voilà, la surpêche aussi dans certaines zones avec l'incapacité pour plein d'espèces de poissons finalement à se reproduire et à briser la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est un sujet que vous avez étudié, que vous connaissez ? En tout cas, ça me paraît être un sujet important, pas pour des raisons éthiques ou morales, mais qui va avoir aussi une implication géopolitique, tout simplement. Si on n'a plus de quoi se nourrir, ou à regarder, ou à explorer, ou à voir, ou à admirer, c'est un autre monde qui s'ouvrira à nous. Si on vide la mer de tout, on la vide de ses poissons, mais de ses dieux, de ses sirènes, de tout. Vous voulez des sirènes ou pas, Michel Geoffroy ?
Oui, des sirènes, oui, je veux bien, mais non, ce que vous dites, oui, c'est vrai, c'est du moins c'est ce que l'on dit. Alors, je me méfie quand même de cette espèce de remake de la vision selon laquelle l'évolution humaine, n'est-ce pas, va détruire le monde. C'est une vieille théorie, c'est une vieille utopie.
Ne tombons pas non plus dans l'autre bord, si j'ose dire.
C'est, oui, mais enfin, c'est quand même un peu
de
ça.
De la mesure.
C'est quand même un peu ça. Alors, je pense que ça, effectivement, il y a effectivement du plastique dans l'eau. Bon. Méfions-nous du regard qui consiste à ne voir que la catastrophe ou la difficulté et qui ne voit pas... Ce qui m'énerve, c'est quand on parle, par exemple, de la diminution des espèces, ce n'est pas vrai. Tout le temps, on découvre de nouvelles espèces. Évidemment, elles sont un peu différentes de ceux qu'on...
Celles qu'on va trouver dans les fonds sous-marins sont très laides.
Oui, d'accord. Enfin, elles existent quand même. Bon, oui, on en trouve tout le temps. Bon, donc, je veux dire, nous voyons un peu trop, notamment nous, occidentaux, je pense que nous voyons un peu trop le verre à moitié plein et on a un peu trop tendance à refuser l'histoire, l'avenir. Bah oui, la population augmente, alors effectivement, on pêche plus, oui, bah, c'est sûr. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut peut-être penser à des régulations. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur la mer. Hein. Il y a aujourd'hui des réflexions écologiques qui ont été portées par l'ONU. Donc, si vous voulez, mais bon... Personnellement, je ne tombe pas dans ce que je considère un peu...
Dans le piège que je vous ai tendu.
Un retour du catharisme. C'est le Qatar, c'est l'utopie Qatar. Hein, c'est-à-dire, l'homme, il est en train de détruire le monde. Mais non, c'est pas vrai. Le monde, il continue tranquillement. Hein. Voilà.
Bon. Je rebondis là aussi sur ce que dit Michel. La chasse à la baleine, c'était essentiellement pour l'huile, à des fins industrielles. L'huile de baleine aujourd'hui a été totalement remplacée par des huiles synthétiques et la chasse à la baleine est maintenant purement culturelle, totalement anecdotique. Alors j'imagine que vous allez recevoir des appels de je ne sais quelle association de défense des poissons, les baleines n'étant pas des poissons, mais c'est totalement anecdotique pour le Japon et la Norvège. Voilà. Donc moi j'ai une certaine foi dans le progrès technique. Et là aussi, comme Michel, je crois qu'il ne faut pas se surinquiéter d'un monde qui se transforme.
Très bien. Pierre Leprince, on ne vous a pas entendu.
Ah non, mais alors là-dessus...
Vous, c'est juste les chroniques musicales, hein.
Oui, voilà,
sur la géopolitique de la mer...
J'ai des avis, mais voilà, je préfère les garder pour moi. Alors, bon, on écoute.
On va bientôt arriver au terme de cette première partie. Si les auditeurs de Radio Courtoisie veulent un peu prolonger cette réflexion, est-ce qu'on peut les renvoyer... Donc, vous avez évoqué cette troisième partie du reportage d'Arte sur Magellan. Je pense que ça vaut le coup.
Les plonge. Les cinq parties sont extraordinaires.
D'accord. Et c'est facile à trouver, ça.
Ah bah c'est Arte en VOD.
Donc là, on cultive sa maritimité.
Absolument. Hein.
Voilà. Alors, c'est le premier enseignement, on cultive. Michel Geoffroy, vous avez peut-être un auteur ou une référence qui peut donner envie d'en savoir plus.
C'est que les grands films sur la mer, c'est plutôt des films anglo-saxons.
Oui.
Et que nous, on n'en fait pas beaucoup. Je veux dire, Master et Commander,
réfléchissons,
je ne sais plus quel est le titre français, c'est un film anglais.
Il y a Schanderfer.
Ça commence à dater. C'est bien, mais c'est quand même pas... c'est pas un film qui donne le moral, moi, je trouve. Franchement, ça ne me donne pas le moral. Donc, on parlait tout à l'heure des musées. Moi, je me méfie un peu des musées, parce que c'est la culture... c'est la culture muséifiée, quoi, qui n'est pas vivante. Alors c'est mieux que rien, mais moi je préférais des grands films qui exaltent effectivement l'épopée des grands Européens, des conquistadors, qui nous parlent des Varègues qui vont conquérir la Russie, qui nous parlent de tous les grands découvreurs européens. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Mmh. Hein, alors on évoquait tout à l'heure Philippe de Villiers. Bah oui, c'est bien, mais il y a besoin de faire plein d'autres Puits du Fou. Sur des sujets...
L'aventure a été amorcée avec Vaincre ou mourir. Je pense que ça, il doit avoir quelque chose comme ça. Voilà, on va lui envoyer des scénarii. Merci à vous, Michel Geoffroy, Frédéric Épervier. Vous restez dans le studio. Après le petit générique de l'émission, nous nous retrouvons dans le studio de Radio Courtoisie.
Le libre journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Chers amis, alors avant de retrouver Romain Espineau, je le vois, il est en visio. Romain, vous me voyez, parfait, il est là. Raphaël Emma souhaitait introduire le sujet qui concerne celui de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, avec sa chronique Perspective identitaire. Nous écoutons Raphaël Emma.
Perspectives identitaires, la chronique politique de Raphaël Emma pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie.
En politique, l'augmentation de la répression est un indicateur, un baromètre qui nous permet d'identifier quand le narratif du pouvoir en place s'essouffle face à ses contradictions, quand la méga-machine se rigidifie, quand l'autorité et l'arbitraire remplacent le pacte social consenti. Dimanche dernier, à Besançon, une jeune militante du collectif Nemesis, Yona, organisait à l'occasion du carnaval de la ville une action choc. S'infiltrant dans le cortège, elle déployait avec une camarade une pancarte au slogan de bon sens, « Violeurs, étrangers, dehors ». Trois mots simples qui n'appellent qu'à la raison. Les criminels français doivent être traités sur le territoire, ceux qui n'appartiennent pas au corps national doivent être traités ailleurs, ne pas engorger les prisons françaises. Une méthode d'action qui relève d'une tradition de l'agit-prop tout à fait traditionnelle, inoffensive par ailleurs. A l'inverse, des dommages que certains militants écologistes infligent en attaquant des œuvres dans des musées ou à la manière de dernière rénovation en mettant en danger des vies en bloquant les routes ou les autoroutes. Pourtant, Yona, 19 ans, a écopé d'une garde à vue et d'une perquisition au domicile de ses parents pour saisir les dites pancartes. Réaction disproportionnée, elle nous renseigne sur la dérive liberticide dans laquelle le pouvoir macroniste s'enfonce depuis plusieurs années, en particulier à l'heure de dissoudre, enfermer, sanctionner, interdire, en bref, réprimer les militants identitaires, patriotes ou nationalistes. Les dissolutions de mouvements politiques sont devenues, sous Macron, monnaie courante. En 2021, c'était la dissolution de Génération Identitaire, ni plus ni moins coupable d'avoir dénoncé le remplacement charnel des Européens. La même année, actée 2 ans plus tard, c'était aussi l'Alvarium à Angers, association culturelle, politique spécialisée dans les maraudes, qui faisait également les frais d'une dissolution. Cette année, la répression fauchait la Citadelle à Lille, mais sur une note plus inédite, Academia Christiana, qui n'est pas un mouvement à vocation militante, mais un institut de formation politique catholique. Alors évidemment, les dissolutions ne sont pas quelque chose de nouveau. Sous la 5ème République, plusieurs présidents ont fait appel à cet outil. Mais Macron a la particularité de battre tous les records. Il remporte la palme en ayant dissous, sous ses 2 mandats, plus d'associations que l'intégralité de ses prédécesseurs jusqu'à Pompidou. Individuellement, Macron a dissous plus que le pouvoir gaulliste, par exemple, qui était, lui, pourtant, confronté à mai 68 ou à la guerre d'Algérie. En parlant de 68, les dissolutions sont-elles unanimement dirigées vers les structures patriotes? En théorie, sur le papier, non. Le CCIF, islamiste, les soulèvements de la Terre, écologistes ou encore la GAL, groupuscule antifasciste, ont été ciblés. Mais les soulèvements de la Terre, comme la GAL, ont vu en Conseil d'État la décision de la dissolution suspendue. Une décision magnanime, dont l'Alvarium, par exemple, ayant lui aussi saisi le Conseil d'État suite à sa procédure de dissolution, n'a pas pu bénéficier. La répression ne s'arrête pas aux dissolutions. Depuis mai de l'année dernière, les interdictions d'événements, y compris intellectuels, comme des colloques ou des conférences, se multiplient. Point de départ, le colloque de l'Institut Iliade pour les 20 ans de la mort de Dominique Vénère, qui devait se tenir le 21 mai à Paris. Interdit par la préfecture, rejetant le référé liberté, ce colloque a créé une formidable jurisprudence. Les événements sont aujourd'hui susceptibles d'être interdits s'ils sont susceptibles d'y voir germer des propos tombant sous le coup des lois contre la discrimination, l'incitation à la haine, la xénophobie, etc. Ni plus ni moins qu'une criminalisation de l'opinion politique, cette inquiétante dérive des libertés s'est traduite plus largement dans la société. Après la pandémie du Covid-19, les restrictions de liberté iniques avaient conduit de très sérieux The Economist à classer la France macroniste dans les catégories des démocraties défaillantes, dans son classement annuel des indices démocratiques. En bref, la France s'enfonce chaque jour plus en plus dans l'autoritarisme et la répression politique. Se résigner n'étant pas une option, notre combat étant juste, il faudra lutter contre le phénomène. Comme le disait un certain intellectuel royaliste de Martigues, les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent.
C'était Raphaël Emma pour sa perspective identitaire. Alors, petite précision, c'était bien les 10 ans de la mort de Dominique Vénère qui avait fait l'objet de l'interdiction du colloque organisé par l'Institut Iliade. Nous recevons Romain Espineau. Romain, vous m'entendez?
Je vous entends très bien, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du développement de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui accompagne les lanceurs d'alerte. Alors je pense que ça sera l'occasion de définir ce qu'est un lanceur d'alerte. Je sais que votre spectre est relativement large. Alors Raphaël Emma, au début de sa chronique, disait la répression et son niveau est finalement un indicateur assez juste et clair de la bonne santé ou pas d'un pays. Aujourd'hui, l'indicateur, il en est où en France ?
Oui, je trouve que cet indicateur est effectivement assez révélateur. Et aujourd'hui, on voit que le gouvernement, que l'État panique. Il est obligé de réagir et de surréagir. Et pour ça, il utilise justement toutes les procédures possibles pour faire peur et pour essayer d'étouffer toutes les voix qui pourraient s'élever contre ses propres actions.
Alors faire peur, c'est-à-dire en réprimant, empêcher l'expression d'idées ou des actions politiques, tout simplement.
C'est ça, il y a plusieurs niveaux. Hein. On va dire que traditionnellement, le pouvoir pouvait attendre que les choses se passent et être vigilant pour voir si quelque chose déviait de la loi, et auquel cas, bien évidemment, contre le camp conservateur, patriote, identitaire, la sanction était sans appel. Et puis, malheureusement, ça ne suffisait pas pour faire taire justement cette voix qui se lève à droite de façon générale, et la vraie droite, hein, la droite des valeurs, ça ne suffisait pas. Et donc, les gouvernants ont commencé à interdire, que ce soit des manifestations, des rassemblements, y compris des choses assez bien cadrées qui se passaient dans des lieux privés. Donc là, on est monté d'un cran. Déjà, on sent que la tension monte, on monte d'un cran. Et puis maintenant, on est même en surréaction dans le cadre des procédures. Et nous, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment l'élément révélateur qui nous fait penser que le gouvernement, réellement, je pense, panique, en tout cas ne sait plus réagir et est bien conscient qu'il y a une voix qui s'élève et qui est de plus en plus forte. C'est donc, je le disais, l'utilisation des procédures comme moyen de répression, pardon. C'est-à-dire la garde à vue systématique pour la moindre action, alors que la garde à vue, ça rentre quand même dans le cadre d'une enquête pour des raisons bien précises. Ça va être la perquisition du domicile. Pour trouver quoi, bien souvent, on ne sait pas, mais c'est des choses qui sont qui peuvent paraître impressionnantes. Et du coup, on utilise ces procédures pour faire peur réellement à tous les militants.
Vous parlez du camp patriote, identitaire, conservateur, mais ça ne concerne que ce camp-là, ou est-ce que le gouvernement, dans cette stratégie finalement un peu de tension et d'interdiction, s'attaque aussi, on va dire, aux gauchistes, aux islamistes? Est-ce qu'il fait une sorte de godille d'un camp à l'autre?
Alors, oui, effectivement, ces méthodes sont utilisées contre plusieurs camps, parce que déjà, on est quand même dans un gouvernement qui pratique la politique du « en même temps ». Et d'ailleurs, on le voit dans certaines affaires, on allume un feu d'un côté et on va vite allumer le contre-feu de l'autre, parce que si on tape sur un islamiste, on pourrait être catégorisé de peut-être trop à droite ou trop radical, alors du coup, on va aller taper sur un identitaire de l'autre côté. Donc effectivement, il y a une stratégie politique. Mais ça, on va dire que c'est un peu dans le feu et le contre-feu, aussi très médiatique, des affaires dont on va parler. Mais dans les faits, les affaires qui vont le plus loin, en général, sont quand même à destination des militants identitaires et patriotes. D'ailleurs, je crois que c'était rappelé dans la chronique, hein, tout à l'heure, les soulèvements de la Terre et d'autres ont pu avoir recours au Conseil d'État, ont pu avoir un certain nombre de recours extraordinaires, qui en plus leur ont donné raison, alors que pour le camp que nous représentons, on va dire que c'est le recours au Conseil d'État, c'est plutôt une formalité pour dire qu'on s'est battu jusqu'au bout, mais c'est quand même assez difficile.
Dans cette phase qu'on connaît, hein, et je partage tout à fait votre opinion et le combat de l'ASLA, on est dans une dérive extrêmement inquiétante, on remarque une sorte d'alignement du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Et d'habitude, on dit les services entre eux se tirent la bourre, les ministères se tirent la bourre. On pourrait dire face à des procédures trop rapides, hors des clous, avec des avocats qui sont mandatés au dernier moment, le week-end, ils pourraient eux aussi finalement s'offusquer contre ce déni de justice, mais ils n'en font rien, ils s'alignent eux aussi, c'est ça qui est surprenant.
C'est surprenant et en même temps pas tant, on a quand même changé d'air dans le milieu politique, l'homme politique n'est plus au service de sa fonction, mais il utilise sa fonction pour qu'elle soit au service de sa carrière. Et c'est bien ça qu'il faut voir. Et donc, une carrière, quand on est aujourd'hui dans le gouvernement Macron, on voit bien comment pouvoir la poursuivre. Et donc, on s'aligne. On s'aligne sur la volonté, peut-être une volonté présidentielle. Et puis, voilà, donc ça crée ce phénomène qui fait que la justice est alignée sur la sanction, on va dire, policière. Enfin, voilà. Tout le monde va aller un petit peu dans le même sens pour suivre la volonté du gouvernement.
Alors, il faut savoir que donc, la SLA tire sur deux leviers. La levée de fonds pour aider les victimes, finalement, de cet arbitraire, mais aussi la protection juridique. Vous rentrez en contact avec des avocats. Alors ça nous intéresse parce que on n'a pas l'occasion, nous, d'être tous les jours, comme vous, en relation avec les avocats, finalement, dans les arcanes de la justice. Quel est réellement le tempo, quelle est l'ambiance, justement ?
L'ambiance, elle est toujours assez particulière quand il s'agit d'affaires politiques. Nous, on a la chance de travailler avec des avocats qui, de par leur expérience, couplée à la nôtre, travaillent toujours sur ces affaires-là. Et en fait, sur ces affaires-là, il y a toujours une dimension qui est particulière, puisque normalement, un avocat va travailler sur la base du droit et part du principe que ce soit les personnes responsables de la procédure ou les juges, eh bien, vont être de bonne foi. Et donc, vont regarder le droit tel quel et vont dire, effectivement, on peut être d'accord ou pas, mais là, le droit pose un cadre qu'il faut respecter. Quand c'est une affaire politique, et plus particulièrement quand c'est une affaire politique qui concerne le camp conservateur, identitaire au sens large, là, on va dire que la vérité du droit n'est peut-être plus la même et on peut avoir des interprétations qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est le premier point qui est assez compliqué puisque l'avocat doit avoir aussi cette capacité à se dire « je sors un peu du droit ». Pure technique et quelque part je dois mettre les bouchées doubles parce qu'il faut peut-être que j'amène deux fois plus de droits pour prouver parfois des choses toutes simples. Donc ça c'est un peu la rigidité de la procédure. Après il y a vous parliez un peu de tempo, il y a aussi parfois cette nécessité de devoir aller très vite. Parce que quand c'est un événement qui est interdit, parfois il peut être interdit à la dernière minute. Je sais pas, par exemple un rassemblement qui va être interdit à la dernière minute justement dans le but que si un recours est mené eh bien les organisateurs n'aient pas le temps de se retourner et de réorganiser quelque chose. Donc le tempo est aussi assez rapide de ce côté-là. Donc une rigidité vraiment dans les procédures, cette notion très subjective qui sort du droit et puis ce tempo qui est imposé de façon rapide ou parfois peut-être qui peut être, quand l'affaire est un petit peu plus compliquée, on va laisser traîner. La justice va laisser traîner, va attendre un petit peu et maintenir ce niveau de pression sur les personnes en les laissant sous le cadre d'une enquête préliminaire, en les laissant sous un contrôle judiciaire qui parfois est assez lourd. Donc il y a deux tempos. En tout cas, c'est jamais très naturel et très conventionnel, je dirais.
Et est-ce que dans le dispositif, pour aider réellement la SLA à renverser la table, est-ce qu'il manque pas, comme les gauchistes ou la gauche morale hors sol l'a eu dans le temps, ces sortes de grandes voix, ces grands avocats qui faisaient des plaidoiries, qui allaient dans les studios télé, qui représentaient des sortes de personnalités faisant avancer, de leur point de vue, leur position? Est-ce que ça, il y a un manque finalement dans notre camp?
Alors, il y a un manque, je trouve, et nous trouvons quand même que ça bouge de plus en plus grâce à différents médias, beaucoup de médias qu'on pourrait qualifier aussi d'alternatifs, qui petit à petit ouvrent des portes, y compris sur des grandes chaînes, pour des chroniques, pour des émissions ou ce genre de choses. Donc, effectivement, on en a moins que nos adversaires, mais ça commence à évoluer. Et je pense que c'est aussi révélateur, pendant longtemps, là aussi c'est quelque chose qui évolue, mais la gauche et l'extrême gauche a toujours été un exemple, si on peut parler comme ça, mais un exemple de capacité de mobilisation, de capacité l'extrême gauche qui se met en branle après une affaire, c'est quelque chose d'impressionnant. Chez nous, on est un peu plus, peut-être à droite, un peu plus pudique, un peu plus réservé, et donc on a eu du mal à déclencher.
Il y a une forme de confiance dans la justice et dans la police, finalement.
Il y a une forme de coup de chanson, effectivement.
Bon, il y a eu un désenchantement, je crois, il y a 10 ans, au moment de la Manif pour tous. Il y a justement toute une génération qui a arrêté cette naïveté vis-à-vis de la justice et de la police, qui s'est rendu compte finalement que l'État lui voulait pas toujours du bien pour ce qui était tout simplement la perpétuation de son histoire et de son peuple. Et donc voilà, depuis 10 ans, on voit une multiplicité d'initiatives un peu hors les murs, et là, cela d'ailleurs en fait partie.
Effectivement, et puis il y a un autre point aussi qui est important de souligner, et je pense aussi à gauche, il y a toujours eu une solidarité face aux grands sujets, que peut-être on n'a pas toujours eu, qu'il n'y a pas toujours à droite. On va un petit peu essayer de se titiller sur certains détails, alors qu'à gauche, sur les grands sujets, peu importe votre affinité profonde, sur les grands sujets, tout le monde part au combat derrière le même bouclier, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, nous a beaucoup manqué.
Alors quand même, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je voulais citer quelques affaires en cours que vous suivez, hein, puisque vous faites un travail concret qui se mesure par des avocats, par des levées de fonds. Génération identitaire face à SOS Méditerranée, Franck Manogille face à SOS Méditerranée de nouveau, qui a abondé de millions d'euros de subventions et de dons privés. Jordan Florentin, qui est un journaliste indépendant, face à Yacine Bellatar, lui aussi journaliste, mais lui protégé de la Macronie. Et les identitaires face à l'État. Et dernière affaire, c'est peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que je crois qu'il y a eu un rebondissement, c'est celle d'Isabelle Surplis face à la mosquée de Saint-Chamond.
Oui, tout à fait. Ça, c'est notre dernière victoire. Hein. Bon, la victoire d'Isabelle en premier lieu, effectivement, d'Isabelle Surplis, mais une victoire aussi pour la SLAB, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que donc Isabelle est élue locale, municipale et régionale. Elle est sur la commune de Saint-Chamond, notamment. Et donc, il y a là-bas une mosquée radicale qui avait même un imam qui avait des prêches particulièrement radicaux, avec une vision de la femme tout à fait particulière. Et donc Isabelle Surplis a dénoncé tout ça, a réussi d'ailleurs à faire en sorte que l'imam soit expulsé, donc c'est pour dire que son combat était tout à fait légitime, et par la suite, eh bien, il y a eu une procédure, en tout cas une plainte qui a été déposée par la mosquée contre elle pour diffamation, puisqu'elle aurait diffamé la mosquée en expliquant qu'ici se tenaient voilà, des prêches radicaux et des propos qui n'ont pas leur place en Europe. Elle a eu gain de cause, puisque devant la justice, elle a été totalement acquittée.
Excellent, bravo, félicitations Romain Espineau, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle aux éditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent vous retrouver facilement sur Internet en tapant ASLA, Association de soutien aux lanceurs d'alerte. Nous les connaissons bien à l'Institut Iliade, puisque vous nous avez soutenus lors de l'interdiction du colloque. Je rappelle que l'Institut Iliade mène 4 procédures juridiques parallèles face au préfet Nunez, face à Darmanin, au tribunal administratif et le tout porté au Conseil d'État. Donc j'invite vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à se mobiliser autour de ce type de combat. Merci Romain Espineau, et nous nous revoyons bientôt, j'espère, ici dans le studio de Radio Courtoisie.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
C'est la tradition, nous terminons toujours ce Libre Journal par une note positive, enracinée. C'est le moment d'écouter l'incubateur des entreprises enracinées qui nous parle des initiatives positives. C'est le moment de Radio Le Nid.
Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne, hélas tous, l'insécurité. On parle souvent de l'insécurité d'un point de vue politique. Mais d'un point de vue individuel, savez-vous comment réagir face à un agresseur? Savez-vous comment vous comporter dans une situation de violence physique? Si vous n'êtes pas un professionnel des arts martiaux, ce qui suit va vous intéresser. Romain Carrière, champion du monde de taekwondo, s'est formé à une méthode américaine, peu connue en France, la méthode Fast Defense Global. Rien à voir avec le Krav Maga ou autre méthode qui implique des gestes très compliqués que vous n'arriverez pas à reproduire sous le stress d'une situation d'agression. Romain Carrière reproduit donc, lors de ses formations, ces conditions de stress d'agression. Il se couvre de protection et vous attaque, vous permettant de réagir en mettant tous les coups possibles. Surtout, il vous donne quelques pistes, crier, mettre les mains en avant et d'autres gestes simples qui permettent souvent de faire fuir l'agresseur. Agresseur qui s'attend plutôt à une forme de passivité. Ce sont ces gestes et ces bons réflexes que Romain Carrière enseigne lors de ses formations. Il a d'ailleurs formé Henri d'Anselme, le héros au sac à dos qui a fait fuir le terroriste d'Annecy il y a quelques mois. C'est notamment grâce au conseil de Romain qu'Henri a su bien réagir dans cette situation tragique. Le NI accompagne donc Romain Carrière dans son projet d'entreprise de formation anti-agression. Si vous êtes intéressé à titre personnel ou pour votre entreprise par ces formations, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante contact@incubateurleni.fr. À bientôt sur Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées.
Merci pour ce moment revigorant. J'espère que vous suivez bien toutes les aventures du Nid, tous ces projets incubés. Nous étions ravis avec toute l'équipe de vous avoir de nouveau avec nous pour ce libre journal Vive la civilisation européenne. Et nous nous retrouvons tout bientôt, dans un mois pile. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclet, puis Romain Petitjean. Assisté de Françoise, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le lundi 15 avril 2024, de 18h à 21h, et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.